En sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Écrire, traduire, militer, s'engager, escalader, voilà des verbes qui font partie de la phrase quotidienne d'Eri De Luca. Enfant de Naples hier, amant de Naples aujourd'hui, on se souvient de son prix féminin étranger en 2002 pour Montedidio, roman qui courait dans les rues de ce sud de l'Italie pauvre et vivant l'amour à la sauvette. Eri De Luca, 65 ans, fait partie de cette génération attachée à la pensée ouvriériste, mais aussi à l'histoire sainte, à l'humanitaire, de la Tanzanie à l'ex-Yougoslavie, en passant par les flux migratoires d'aujourd'hui. Et le voilà qui vient de quitter sa solitude romaine, les bras chargés d'un procès. Il est accusé d'incitation au sabotage et d'un roman, La nature exposée, où l'on suit la route d'un sculpteur qui devient passeur pour clandestins. Bonjour Eri De Luca.
Bonjour.
Est-ce que vous écrivez pour vivre ou est-ce que vous vivez pour écrire ?
Non, j'écris pour me tenir compagnie depuis l'âge d'enfance. J'ai trouvé que c'était une belle manière de me tenir compagnie. Parce que quand j'écris, je suis en train aussi de me raconter une histoire. Je ne la connais pas complètement. Je commence à l'écrire et l'histoire commence à me donner des suggestions, des diramations, des divagations. Et alors, ça me plaît que l'histoire me fait ce service de distraction continue. Et j'ai l'impression de rattraper seulement des petits morceaux d'une histoire qui m'échappe complètement. Maintenant, l'écriture est mon activité rentable. La plus rentable, mais je ne peux pas employer pour ça le mot « travail ». Pour moi, l'écriture était toujours le contraire du verbe « travailler ». C'était le temps sauvé d'une journée, c'était le temps de fête, le petit temps de fête, qui avait aussi la prétention d'être à contrepoids du reste.
Mmh. Bon, donc ça va être la fête alors, avec vous pendant une heure en sol majeur. En vous lisant, Eri De Luca, c'est vrai que l'enfance napolitaine court encore toujours un peu dans vos veines d'auteur. Voilà ce que vous écriviez en 2016 dans une série de textes courts intitulés « Le plus et le moins ».
Le dimanche, nous allions déjeuner chez la mère de ma mère, Nona Emma. Depuis le vendredi soir, elle se relayait avec sa belle-fille Lilina devant la toute petite flamme où mijotait le ragout, ro, en langue et palais locaux. Notre arrivée à midi dans le vestibule était accueillie par un alléluia de ragout droit dans le nez. Cette sauce était un applaudissement de stade debout après un but. C'était une étreinte, un saut et une cascade dans les narines. Je ne retrouverai jamais plus cet abordage au plus haut de mes sens, qui est pour moi dans une glande de l'odorat. À table, devant le ragoût, accompagné de grosses pâtes, j'étais assis bien sagement, mais intérieurement, j'étais à genoux devant mon assiette. Ce fut ma portion de manne, le pain des cieux, préparé par deux prêtresses des fourneaux, par leur rite nocturne. C'était des bouchées qui imposaient le silence. Mes yeux aussi se fermaient. Les fourchettes dans les assiettes recueillaient le fruit de la connaissance. La bouche pleine gazouillait un cantique. Je n'ai pas un tempérament mystique, mais ce peu qu'il m'a été donné d'avoir, je l'ai dégusté. Je l'ai eu sur la langue tous les dimanches de mon enfance. Cette table de fête prend dans mon souvenir la forme d'un autel.
Alors l'enfance, à vous lire, Eri De Luca, c'est un mélange de sensualité et de sacré.
Sacré comme effet secondaire de la sensualité. C'est comme une espèce de soulèvement spirituel de la matérialité.
Waouh. Dans un plat de pâtes, il y a tout ça.
Dans ce plat de pâtes. Ah, voilà. Dans un plat de pâtes. Dans ce plat de pâtes. Et celui-là exclusivement.
La langue et la nourriture en même temps, c'est ce qui a forgé votre culture du goût.
La culture du goût ? Non, je suis un barbare du goût.
Ah bon ?
Si, j'ai des goûts barbares.
Quoi, c'est un petit peu d'huile d'olive,
huile d'olive, de l'ail,
sur une tomate, ouais.
De l'ail,
vous appelez ça des goûts barbares, vous ?
De l'ail cru, si, c'est barbare pour les personnes qui sont autour.
Thank you.
agir comme je me souviens.
On va voir si le « je me souviens » à la Pérec fonctionne avec vous, Éric De Luca. Vous êtes né en 1950, donc après la guerre, dans une famille bourgeoise napolitaine qui d'ailleurs n'avait plus rien de bourgeois.
Oui, les maisons étaient détruites. Et alors on s'est retrouvés dans des ruelles de Naples à vivre la vie des pauvres, mais avec un héritage de bourgeoise. Et l'héritage bourgeois consistait dans les livres. Parce que dans la destruction de la maison de mon père, il avait réussi à sauver les livres. Parce que les livres sont très robustes, résistent au bombardement, les livres. Et résistent aussi au feu. Parce qu'il y avait des livres de mon père qui étaient un peu brûlés autour, mais dans l'intérieur, ils étaient lisibles, ils s'étaient résistés au feu.
Mais vous vivez dans un quartier populaire qui s'appelle Montedio, qui a donné le titre d'un de vos romans, célèbre aujourd'hui. Et vous y racontez que vous et vos parents, vous vivez à ce moment-là assez isolés et loin de la vie grouillante et surpeuplée de Montedio. Pour quelle raison ?
C'était une séparation volontaire, mais c'était impossible de se séparer dans ces conditions de plus haute densité habitative d'Europe. On était tout précis, l'un à côté de l'autre. Et les parois même n'arrivaient pas à faire cette séparation. Parce que le tuf, c'est un matériel, le tuf, le matériel volcanique de quel sont été bâties les maisons de Naples, était un matériel qui se refusait de faire le travail d'isolé. Et donc à Naples, nous savions tout ce qui se passait autour de nous, tous les faits des autres. Et là, on essayait de faire une espèce d'isolement. Et l'isolement se faisait aussi avec l'italien. Parce que tout autour, il y avait le napolitain, que c'est ma langue mère, la langue que j'ai appris. Et c'est la langue que je parle avec moi-même. Quand je me fâche avec moi-même, je me fâche en napolitain. Si j'emploie l'italien, ça ne me fait rien.
Beaucoup de livres autour de vous, Éric De Luca. À quoi ressemblait, j'ose la question, à quoi ressemblait votre chambre d'enfant ?
Ma chambre d'enfant, ce n'était pas une vraie chambre, c'était un petit trou plein de livres de mon père. C'était la chambre des livres de mon père. Et j'habitais dans ce petit couloir des livres de mon père.
Donc les livres étaient votre maison ?
Oui, c'était une maison qui parfois, quelques livres me tombaient sur le lit aussi. Parce que Naples a des secousses qui font bouger les choses. Les secousses et les fantômes aussi font bouger les choses.
Ah oui, vous en avez rencontré, des fantômes ?
Et dans mon enfance napolitaine et dans la ville de Naples, il y avait beaucoup de fantômes à l'époque. Maintenant, ils sont disparus.
Racontez-nous ces fantômes, d'où venaient-ils ?
D'où venaient-ils ? Venaient des vies précédentes. Mais l'esprit de ces corps était resté coincé dans le matériel du touf.
Et vous, enfant, vous discutiez avec ces fantômes ?
Je les ai écoutés, les fantômes.
Qu'est-ce qu'ils vous disaient ?
On admettait qu'ils ne parlaient pas avec moi, ils parlaient entre eux.
Croire aux fantômes, est-ce que on est déjà dans le début du mysticisme ?
Non, c'était l'évidence physique du peuple napolitain. Le fantôme était réel, comme la femme, comme la mortalité enfantine. Et chaque famille avait ses fantômes et ses histoires de fantômes. Mais non, il n'existe plus, les fantômes. Peut-être que c'est changé le matériel de construction à Naples.
Nous n'avons pas le moins du monde peur des ruines. Nous allons hériter de la terre. Nous portons un monde nouveau, là, dans nos cœurs. Et ce monde grandit en cette minute même.
Enfant, est-ce que vous rêviez de faire la révolution ?
Pas exactement moi-même. C'était ma génération et mon siècle qui s'étaient spécialisés en révolution. Donc je me suis trouvé hôte de ce siècle révolutionnaire qui avait changé les rapports de force entre oppresseurs et opprimés à travers l'outil des révolutions, qui avait renversé des empires coloniaux avec l'outil de la révolution. Donc je me suis trouvé contemporain de cette époque turbulente et j'ai adhéré.
Vous quittez Naples pour Rome à 18 ans et vous vous engagez effectivement dans l'action politique révolutionnaire assez vite. J'ai envie de vous faire écouter un chant révolutionnaire espagnol pour réveiller un petit peu la mémoire d'un certain Buenaventura Durruti, dont vous m'avez parlé, figure majeure de l'anarchisme espagnol, avant et pendant la révolution sociale espagnole de 1936.
Por allí viene Durruti con una carta en la mano.
Por el pueblo, la clase obrera está cansada de que se le engañe. Los trabajadores saben lo que quieren. Nosotros luchamos no por el pueblo, sino con el pueblo. Es decir, por la revolución dentro de la revolución. Nosotros tenemos conciencia de que en esta lucha estamos solos y que no podemos contar nada más que con nosotros mismos.
Que se salgan del cuartel.
Alors, que vous rappelle ce chant révolutionnaire, Eri De Luca ?
Mes premiers sentiments politiques. À l'époque, j'avais autour de 16 ans, j'avais lu le Hommage à la Catalogne de George Orwell, que c'était une histoire de son expérience de militante internationale dans la guerre civile espagnole. Et donc, cette lecture m'a formé mes premières réactions sentimentales face à des événements politiques. Et donc, c'est pour ça que Buenaventura Durruti est une des figures des personnes héroïques de mon adolescence.
Alors, j'ai regardé rapidement, tenté par exemple d'assassiner le roi Alfonso XIII, le roi d'Espagne. Mais en quoi sa pensée ou son action plutôt révolutionnaire vous a marqué précisément ?
Mais l'écrasement de la guerre civile espagnole, de la résistance espagnole, de la République espagnole qui avait été élue régulièrement, avait été élue démocratiquement. Et donc l'écrasement de cette expérience par le coup d'État soutenu par les fascismes italiens et allemands, le bombardement de Guernica qui est devenu fameuse parce que Picasso qui se trouvait à Paris, au lieu d'être sur place, il se trouvait à Paris, a donné ce nom à un tableau. Mais qui est le premier bombardement terroristique, de terrorisme. La division Condor de la Luftwaffe l'avait bombardé dans les jours de marché. Donc c'était un acte d'inauguration de la terreur. Et pour moi, l'acte de terrorisme par excellence est le bombardement aérien d'une ville. Et la guerre moderne, pour moi, se spécialise dans la destruction de vie civile. Maintenant, en Syrie, nous avons rejoint le résultat que 9 sur 10 des pertes sont des pertes de civils et pas de soldats, de combattants.
Mais vous-même, Eri De Luca, vous étiez quand même pour la lutte ouvrière violente, pour finalement que la vérité du peuple, comme on disait à l'époque, ne puisse se traduire que par la violence. Quel type d'action vous-même vous avez mené ?
Bon, ça c'est une question de laquelle j'ai dû répondre à des juges. Donc, mon témoignage est réticent par habitude.
J'ai pas les moyens de la torture, là, visiblement.
Non, mais il y a une différence entre les questions posées par un juge et les questions posées par un journaliste comme vous. Mm-hmm. Et la différence est exactement que les juges prétendent savoir déjà votre réponse et vont une démonstration de leur présomption. De savoir. Par contre, un journaliste est tout simplement curieux d'avoir une information sur ça.
C'est une question.
Si, c'est une question. Là, c'est une inquisition.
Mm-hmm. Et alors, réponse à la question ?
Dans ce cas, est très semblable. Et donc, ma réponse pourrait être utilisée pour une inquisition. Et donc, j'évite de préciser. J'étais un révolutionnaire. Ça, c'est...
Oui, c'est
et
sûr.
J'étais responsable de tout.
De tout.
De tout, parce que je ne peux pas exclure ma responsabilité personnelle d'une responsabilité collective. Mm-hmm.
Alors, autre chose qui vous a structuré, Eri De Luca, c'est votre passage en usine pendant 18 ans, comme ouvrier sans qualification. J'imagine que ça, c'est plus qu'une parenthèse. Elle a été rude et j'imagine que votre corps aussi s'en souvient. Et puis, on arrive dans les années 80 où il y a un autre mot qui vient remplir un peu le tableau noir de vos engagements. C'est le mot humanitaire. D'abord, vous partez en Afrique,
oui.
En Tanzanie.
Tanzanie, oui.
Pour y faire quoi ?
Pour monter des éoliennes. Et j'étais là, j'ai appris le kiswahili, la langue locale, et j'ai commencé à faire ce travail-là, de bénévole intégral. Ça veut dire que j'étais complètement gratuit.
Mais vous n'avez pas découvert qu'une langue là-bas, le swahili. Vous avez découvert autre chose en Tanzanie.
En Tanzanie, j'ai amené avec moi la première grammaire et vocabulaire d'ancien hébreu. J'ai commencé à étudier là, cette langue que j'avais commencé à chercher dans la, après la lecture de la Bible, de l'Ancien Testament. Je voulais remonter à l'original. Je voulais savoir c'était fait comment la langue qui s'était pris la charge de mettre le monothéisme sur son dos et le renverser dans le reste du monde. Donc j'ai commencé là à apprendre l'ancien hébreu. Là j'ai appris aussi des maladies locales, comme des paludismes. Non, je me suis réduit à une squelette.
Vous étiez prêt à mourir pour cette
mourir.
Cause?
Si, si. C'était passé comme ça. Mais c'était un endroit où la mort était très...
Banale
et rien de personnel. C'était quelque chose, une affaire collective.
Alors après l'Afrique, vous vous embarquez pour l'ex-Yougoslavie et là on est en pleine guerre de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous diriez, Ride Luka, que la question de l'engagement chez vous est proche d'un Sartre, d'un Jean-Paul Sartre qui militait pour ce qu'il appelait une littérature engagée?
Non.
J'aime bien que ça vous fasse rire. Je me réjouis de la réponse.
Non, la littérature, c'est littérature tout court. Par contre, l'engagement est quelque chose qui regarde le citoyen, la personne. Donc je ne mets pas mon engagement dans les récits que j'écris. Je mets mon engagement comme personne de mon pays et de mon temps. Je m'engage pour des questions qui regardent ma réaction sentimentale ou à quelques événements qui se produisent face à moi. Donc je ne suis pas quelqu'un qui cherche dans le journal le matin quel engagement je dois prendre. Il y a des engagements qui m'agitent, qui me donnent plutôt le sentiment de la honte. De rien faire. Et pour moi, la honte, c'est un sentiment politique.
La honte est un sentiment politique. C'est une phrase que je retiens et qui est à méditer. Éric De Luca, vous savez que dans ce portrait en sol majeur, vous venez y parler du lien au sol, les multiples terres qui sont les vôtres, mais vous venez aussi y déposer des notes de musique en sol majeur. On va commencer avec Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen, que vous avez programmé. Cohen, qui a vraiment l'art d'écrire des petites chroniques. C'est ça que vous aimez chez lui ?
Si, mais aussi il est un poète. Et je donne toujours la préférence aux mots plutôt qu'à la musique.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends needs her regard. Possibly say, I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy sleeping, and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried.
À la Leonard Cohen, et ça vous va bien, Eric De Luca? Allez, on prend le chalutier des mots pour continuer cette conversation rediffusée de façon très en sol majeur avec un écrivain qui habite les dictionnaires et la pensée des lecteurs français, puisque ce napolitain est l'auteur italien le plus lu en France. Il a grandi sous une montagne de livres, puis sur une colline de révolution armée, et voilà qu'aujourd'hui son métier d'homme, il le poursuit en alpiniste, en auteur prolifique et en militant de la désobéissance civile. Quel programme! Pour commencer l'acte 2 de votre En sol majeur, cher Eri, allons flâner du côté de la botte italienne, dans votre Naples de toujours. Mais alors, est-ce que cette ville est identifiable d'un point de vue sonore?
C'était une ville acoustique, elle était bruyante.
On y entend la cornemuse à Naples?
Pour Noël. Chez nous, on l'appelle les zampognari. C'était des personnes qui venaient de la campagne autour de Naples pour faire ce service. Ils étaient habillés comme des bergers.
J'entends des cris et des voix napolitaines. Je parle napolitain, mais j'écris en italien. Nous vivons en Italie, dit papa, mais nous ne sommes pas italiens. Pour parler la langue, nous devons l'étudier, c'est comme à l'étranger, comme en Amérique, mais sans s'en aller. Beaucoup d'entre nous ne le parleront jamais, l'italien, et ils mourront en napolitain. C'est une langue difficile, dit-il, mais tu l'apprendras et tu seras italien. Ta maman et moi, non. Noi non pu, non può, noi non putimo. Il veut dire « nous ne pouvons pas ». Mais le verbe ne lui vient pas. Je le lui dis « nous ne pouvons pas ». « Bravo, dit-il, bravo, toi tu connais la langue nationale ». Oui, je la connais, je l'écris même en cachette, et je me sens un peu traître au napolitain. Alors je me récite mentalement son verbe « pouvoir ».« I pozzo, tu puezze, i sopo, noi putimo, voi putite, loro pono ». Maman n'est pas d'accord avec papa, elle dit « nous sommes napolitains, un point c'est tout. Mon Italie, dit-elle avec deux M. Mon Italie est en Amérique, là où vit la moitié de ma famille. La patrie, c'est celle qui te donne à manger, dit-elle en conclusion. Papa lui répond pour blaguer, alors ma patrie à moi, c'est toi. Il ne veut pas donner tort à maman. Chez nous, on n'élève pas la voix, on ne se dispute pas. S'il est contrarié, il met la main sur sa bouche et cache la moitié de son visage.
Je comprends que ça vous fasse sourire, Eric De Luca, surtout ce petit accent français sur le napolitain. Est-ce que vous reconnaissez néanmoins la traduction française de votre roman Monte d'Ilio?
Oui, là, je le reconnais très bien. Oui, si, mais je suis admirateur de ma traductrice, Danielle Valin.
Alors, cette lutte entre le napolitain et l'italien que vous avez vécu vraiment dans votre chair, enfant, qu'est-ce que ça a produit finalement? Quelle langue ils parlent, vos personnages, dans vos romans?
Ils parlent italien. pour moi, la vie se produit en napolitain, à la vitesse du napolitain. Ma vie, les jours, le moment. Ce moment est napolitain pour moi. Mais si je l'écris, ce moment, je l'écris en italien.
Alors pourquoi ?
Donc il reste.
Pourquoi vous n'écrivez pas cette vie en napolitain ?
Parce que c'est la vie est orale. L'écriture, c'est le deuxième temps de la vie pour moi. Donc je reviens sur des épisodes de ma vie et je reviens avec la distance et la calme de l'italien.
Mais est-ce que ça veut dire alors qu'écrire en italien pour vous, c'est quand même toujours écrire dans une langue étrangère ?
Non, dans la langue que j'habite. C'est pas étrangère, c'est ma deuxième langue, mais c'est la langue dans laquelle je suis résident.
C'est une carte de séjour ?
Non, 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 je suis exactement résident, je ne suis pas un hôte de l'italien. Et donc, en qualité de résident, je ne crains pas l'exil. Je ne peux pas être exilé de ma langue, de mon pays, si, mais pas de ma langue.
Alors, le fait d'avoir été comme ça accompagné, escorté par une langue qu'il a fallu parler de façon obligatoire, hein, l'italien, et une langue qu'il a fallu taire, le napolitain, à un autre moment, est-ce que finalement ça fait que vous n'avez pas de maître aujourd'hui en écriture ?
Non, je n'ai pas de maître en général. Si j'apprends une langue, je ne frappe pas à la porte d'un maître.
Mais par principe, vous n'aimez pas avoir des maîtres ?
Quand je suis sorti du lycée à 18 ans, j'ai décidé définitivement que je n'aurais plus jamais profité d'un maître. J'étais furieux contre le maître.
Mais parce que vous saviez de façon innée écrire Eri De Luca.
Non.
Aux premières pages d'écriture, elles sont arrivées comment ?
À 11 ans, j'ai écrit une histoire de poisson, parce que j'étais un peu fâché contre Phèdre. Vous savez, les fables de Phèdre, qui prend des animaux et les force à être une démonstration de quelque chose de humain. Et donc, ça me semblait une atrocité vers le monde animal.
Alors vous étiez déjà en révolution.
Alors, contre Phèdre, j'ai écrit l'histoire d'un poisson qui disait qu'il ne voulait rien avoir à faire avec les hommes.
Donc vous étiez déjà en opposition
Phèdre
face à une mythologie littéraire ou...
Phèdre me fâchait.
Ouais. Comment vous avez appris le français ?
Sur place. Sur place. J'étais ici maçon pendant des années, 82-83, et donc j'ai appris un français ouvrier. Au début, c'était ami ouvrier et ami talmudique.
Vous avez besoin des langues, hein, Eri De Luca. Qu'est-ce qui vous a amené à apprendre une langue comme le yiddish ?
Le yiddish, c'est une langue que j'ai voulu apprendre quand je suis revenu de l'avril de 93, de célébration du 150e de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Un des héros de mon enfance, à côté de Buenaventura Durruti, était Marek Edelman, un des combattants de l'insurrection du ghetto de Varsovie contre la destruction allemande. Et donc je suis allé à Varsovie pour cet anniversaire. J'ai même pu voir Marek Edelman qui était debout sur une chaise et qui parlait dans un petit coin d'une place à une foule qui l'écoutait en polonais très intensement. Et quand je suis revenu de là, j'ai décidé que je devais apprendre ce yiddish, la langue qui avait été exterminée et qui était parlée par 11 millions de personnes avant la guerre. Et je voulais donner tort à l'histoire. Elle n'avait pas réussi à détruire complètement une langue si quelqu'un, de quelque part, commençait à la bafouiller, à la parler, à la chanter, et même à la traduire, comme j'ai pu faire. Donc c'était pour moi un acte de résistance contre l'histoire est la seule chose à la portée de quelqu'un qui était venu après.
Alors je vous propose de l'écouter, Marek Edelman, donc militant socialiste polonais, l'un des leaders du soulèvement du ghetto de Varsovie, vous l'avez dit, Eri De Luca, et lui qui se définissait comme un juif non religieux dans un paysage anti-juif, voilà comment il raconte son expérience entre guillemets spirituelle dans le ghetto.
Quel genre de Dieu était-il de toute façon ? Il n'existe pas du tout. Où était-il ? Si des gens sont tués au nom de Dieu, alors il n'y a pas de Dieu. Personne n'en avait rien à fiche de tout ça. Notre seule préoccupation était de s'en sortir sain et sauf quand les tirs commençaient. Qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu ? Mes amis et connaissances du ghetto ne cherchaient pas Dieu. Ils détestaient juste Hitler.
Mes amis du ghetto ne cherchaient pas Dieu. La pensée de Marek Edelman a été importante de quelle manière pour vous, Eri De Luca ?
Pas sa pensée, son acte. les responsabilités qu'il a prises de l'insurrection, des mois de l'insurrection, de la résistance. Donc c'est pour moi un exemple de personne qui a su être à l'auteur de son siècle. Donc, sa pensée, s'il était croyant ou non-croyant, ça m'est indifférent. Moi, je suis non-croyant, mais ça n'a rien à voir avec ma relation avec les personnes. Je peux tutoyer l'espèce humaine. Je ne peux pas tutoyer la divinité.
Quand vous entendez sonner l'Angélus, que ressentez-vous?
La prière de l'ange, vous savez?
Pas grand-chose. Pas grand-chose.
Vous faites une moue?
Parce que je suis... je ne sais pas prier. Donc, c'est une oralité qui appartient aux croyants.
Vous faites une nuance que j'aimerais vous entendre nous expliquer. Vous dites, je ne suis pas athée, je suis un homme qui ne croit pas.
Ça veut dire que j'ai exclu la divinité de ma vie, mais pas de la vie des autres. Par contre, l'athée est quelqu'un qui a exclu la divinité même de la vie des autres.
Vous êtes un incroyant qui s'intéresse religieusement à l'histoire sainte. Mais apparemment, c'est un intérêt qui a commencé par la langue des textes sacrés. Pour quelle raison?
Parce que je m'intéresse littéralement à cette langue, pas religieusement. Ça m'intéresse cette histoire. Cette histoire d'une divinité qui décide de se manifester, la dernière arrivée dans la Méditerranée des divinités du polythéisme, qui décide de se manifester avec les mots, avec la parole. C'est sa manifestation physique la plus intense, les mots. Et quel genre de mots? Des mots qui arrivent à déterminer la réalité, à la créer. Il y a un commentaire hébraïque qui dit « Dans la réalité, il y avait déjà la lumière, mais il fallait les mots de Dieu pour la manifester. » Et ça, c'est une phrase qui m'explique à moi définitivement l'emploi de cet outil, de la parole. La parole ne invente pas la réalité, mais le donne de l'illumination, le donne de la précision, de la haute définition, la rend compréhensible. Et c'est pour ça que je suis resté fidèle à cette lecture.
Alors j'ai sous les yeux La nature exposée, votre nouveau roman, avec une photographie d'une sculpture. Qu'est-ce que c'est que la nature exposée?
Donc chez nous, au sud, en Italie, la nature est le sexe. On disait aux enfants, couvre ta nature. Et ici, il s'agit d'un sexe exposé. Nous sommes habitués à voir des nudités exposées parce que, par la publicité, par toute espèce d'exhibition. Mais ici, il s'agit d'une nature exposée par condamnation. Parce que l'évidence qui reste cachée dans notre illustration habituelle, l'évidence est que le crucifix était nu, était condamné à être tué nu.
Alors dans ce nouveau roman, vous nous racontez l'histoire d'un sculpteur qui est embauché par un curé pour restaurer une statue en marbre du Christ crucifié, statue qui a été émasculée par des puritains des années 20. Et puis là, si j'ose dire, vous prenez votre petit burin d'auteur, Eri De Luca, pour scruter le supplicié sous tous les angles. On va écouter un court extrait. Ça se passe au moment où le sculpteur qui est en discussion avec un rabbin évoque le sexe du crucifié en légère érection.
C'est une journée limpide. Nous marchons le long de la mer. Je lui parle de mon travail. Il est déjà au courant. Il connaît l'artiste du crucifié. Il a vu dans une maison une de ses sculptures, un chien droit sur ses pattes postérieures, un hymne à la joie. Il est curieux de connaître celui qui a finalement été chargé de restaurer la gêne. Son père, qui était tailleur, l'appelait ainsi quand il prenait les mesures pour un pantalon. Il demandait au client de quel côté, droit ou gauche, il portait la gêne. Il avait noté dans un cahier les meilleures réponses. « Je ne saurais pas répondre, je passe de la droite à la gauche, là aussi. » Je suis curieux de savoir de quel côté la statue porte la gêne. Je l'ignore, à cause du début d'érection. Il est stupéfait.
C'est drôle cette expression, porter la gêne, Eri De Luca.
C'est une expression napolitaine. Un napolitain, c'est le fastidio. Vous avez-vous le fastidio?
Alors, le crucifié est-il, c'est l'éternelle question que vous posez, est-il vrai Dieu ou vrai homme?
C'est entièrement homme dans cette histoire, parce qu'il naît comme un homme, il souffre comme un homme, il parle comme un homme, et il meurt comme un homme. C'est son message qui le rend divine. Sont ces mots sur la croix qu'il arrive à le transformer dans un symbole, le sauvetage de la résurrection. S'il ne parle pas, il serait seulement un de ces nombreux innocents tués par l'injustice.
Alors ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de la sculpture dans votre roman, il l'a fait cette sculpture pendant la Première Guerre mondiale.
Tout de suite.
C'est-à-dire que c'est finalement dans la boue et dans le sang qu'il apprend l'anatomie.
Et donc il fait une espèce de concentré de la souffrance de ses contemporains dans cette Christ crucifié. Mais la spécialité de cette statue est qu'il n'est pas encore morte. Normalement, les statues de Christ sont le Christ mort qui est prêt à ressurgir, à la résurrection. Ici, encore vivant. Et c'est pour ça que le restaurateur s'aperçoit de certains détails physiques. Par exemple, le fait qu'il a la chair de poule. Il a froid. Et cette expérience du froid de la peau d'une statue qui lui fait partir un sentiment de compassion, qui lui permet de s'approcher à cette statue, à ce corps, et à s'identifier aussi à ce corps.
Alors vous travaillez un peu sur le thème de la frontière finalement, la frontière entre le profane et le sacré, mais vous travaillez aussi cette question de frontière dans sa dimension miséricordieuse. L'autre question dans votre roman, c'est de savoir, pour les habitants du village où l'histoire se passe, si ce sculpteur et passeur de clandestins est un véritable saint ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il se fait de l'argent ou pas en aidant les clandestins à traverser la frontière?
Alors, éliminons le terme clandestin. Personne au monde est clandestin.
Eh oui, mais...
Il y a des destins. On peut les...
Il est un passeur, alors. Il passe.
C'est quelqu'un qui accompagne des voyageurs de la malchance. Dans ce petit coin d'une vallée isolée, tout à coup arrivent des étrangers. Alors il est tout simplement content de connaître des personnes nouvelles. Il accompagne pour lui prêter le minimum de fraternité à disposition, mais aussi pour profiter de leur histoire, de leur récit, par gratitude.
Mais la question est de savoir s'il monnaie ou pas cette fraternité. Est-ce qu'il se fait des sous?
Non, pas des sous. Il n'a pas besoin de sous. La présence de ce flux migratoire donne aussi de la vitalité à l'économie locale de cette petite vallée isolée. Donc c'est quelque chose qui fait du bien aussi, est bien accueilli.
Alors ce roman se dépose à un moment précis hein, sur nos inconscients travaillés par cette question, puisque en ce moment le flux migratoire qui toque aux portes de l'Europe interroge non seulement les autorités européennes, mais aussi le pape François qui récemment parlait d'invasion arabe à propos de ce flux migratoire. Vous n'avez pas entendu ça,
Je n'ai pas entendu le
pape François.
Le pape François parler d'invasion arabe, non, je ne l'ai pas entendu. Je sais que le pape François, son premier voyage, il l'a fait à Lampedusa, seul et sans être accompagné par les autorités italiennes. Donc il a commencé déjà à établir ses priorités. Mais ce n'est pas une question de ce moment. Il y a exactement 20 ans qu'un bateau albanais venait d'être coulé à pic par un bateau militaire italien qui a essayé de réaliser un bloc naval contre les embarcations qui venaient de l'Albanie et qui avait coulé à pic dans les eaux internationales ce bateau qui ne voulait pas rentrer chez lui. Il y a 20 ans que nous essayons dans toutes les manières, les pires manières possibles, de retarder ou d'empêcher ces flux migratoires avec le résultat zéro. Zéro du point de vue de l'efficacité, immense du point de vue de l'infamie.
Mais il y a une inquiétude hein, aujourd'hui chez les catholiques. Vous êtes un croyant, mais vous avez, ce que je dirais, des valeurs chrétiennes en vous, Éric De Luca. Est-ce que ces valeurs, vous ne savez pas, elles ne se sentent pas menacées, ces valeurs qu'on va dire chrétiennes ou ces valeurs de charité?
Mais bien sûr que non. Menacées par quoi? Par un petit flux migratoire sur un continent immense comme l'Europe?
Je n'ai pas oublié la phrase que vous disiez en première partie, Éric De Luca, la honte est un sentiment politique et c'est peut-être ce sentiment qui fait que vous allez reprendre vous-même la route, vous allez vous embarquer tout prochainement avec Médecins Sans Frontières à bord d'un bateau au large des eaux libyennes.
Oui, j'ai reçu cette invitation et pour moi c'était plus qu'une invitation, c'était un ordre. C'est un bateau de sauvetage. Et j'ai su qu'hier, ils ont débarqué au port de Trapani 540 personnes retrouvées dans la mer, de laquelle une bonne centaine avait l'eau aux hanches. Donc s'il arrivait une heure plus tard, peut-être qu'il ne peut trouver rien de ça.
C'est un ordre d'être sur ce bateau. C'est une mission.
Je suis avec eux, je fais ce que je peux et je pense de pouvoir écrire sur ça. Donner un peu d'écoute à leur activité spécifique des Médecins Sans Frontières, de ces bateaux de sauvetage qui font le service que l'Europe n'arrive pas à faire.
La stella guarda au mare col occhio chiaro chiaro si interroga si occorre per colpa in un dolore se pochi innamorati. Stella guarda la luna col occhiere guaglione si interroga se amore è fantasia do cuore e se in un giorno tornerà.
Testa avec Nastella dans votre ensemble majeur, Éric De Luca. Pourquoi elle vous touche cette chanson?
Parce que j'avais un ami fraternel qui est Jean-Maria Testa et que cette chanson, il la chante en napolitain.
C'est simple. Alors, on n'a pas parlé cinéma encore au cours de cette conversation, mais en lisant La parole contraire que vous venez de publier, qui est une réponse un peu à la plainte déposée contre vous par LTF Lyon-Turin Ferroviaire pour des propos que vous avez tenus dans le Huffington Post, où vous évoquiez votre combat contre le percement d'un tunnel de 57 km pour le futur TGV Lyon-Turin. Donc j'ai vu dans ce livre que vous évoquiez Le salaire de la peur, un film de 1953 de Clouzot, conduit dans cette scène en tout cas par Charles Vanel et Yves Montand.
La pétoche, la galéçant, on ne te retient pas. Pas une maison de retraite ici, c'est un camion de soupe.
Eh ben non, je continuerai. J'ai besoin de ces sous, je les gagnerai.
Tu les gagneras, si t'as gagné, je te les gagne. Faut pas confondre, ma gueule, je suis pas le tombé pauvre. Comment vais-je être une prima pour que mon jeu passe à la banque? Et hop, $2000 dans la fouille, au revoir, messieurs, dames. Ben non, ça colle pas, tu comprends? Le pognon, faudrait le gagner, faudrait jouer avec les pédales. C'est pour ça que t'es payé.
J comme.
Tu crois que t'es payé pour conduire un camion, pauvre bon, t'es payé pour avoir peur. T'as pas compris, c'est ça la division du travail. Toi tu conduis, puis moi je rêve de peur. Crois-moi, t'as la meilleure place.
J'accuse.
Oui, c'est un peu le j'accuse d'Eri et De Luca pour En sol majeur sur RFI. Quel rapport vous faites, vous, entre ce film, Le salaire de la peur, et votre engagement auprès des habitants du Val de Suse en Italie?
Ce film raconte quelqu'un qui accepte un risque micidial pour gagner une belle somme d'argent. Ça m'a fait venir à l'esprit le fait que les ouvriers qui sont en train de percer ce tunnel plein d'amiante sont des personnes qui sont payées normalement, sans un salaire spécial, mais qui savent très bien gâcher leur vie future. Donc c'est le salaire de la peur, mais accepté sans même avoir une indemnisation suffisante comme celle de transporter de l'explosif dans le film. M'est venu à l'esprit, et donc je l'ai cité pour un sentiment de compassion, pas de solidarité, parce que je ne ferai pas ce travail.
Donc vous êtes dans une situation à peine croyable aujourd'hui, Eri De Luca. Vous risquez de vous retrouver en prison.
Non, c'est terminé.
C'est terminé.
Si, j'étais acquitté avec la formule la plus
lapidaire,
définitive.
Oui. Mais vous étiez prêt à aller en prison,
oui,
simplement pour des propos tenus dans un journal.
Parce que pour moi, la liberté n'a rien à voir avec la possibilité de marcher dans les rues. Mais pour moi, la liberté est tenir ensemble ce que je dis et ce que je fais. Et si je garde cette liberté, je ne peux pas être menacé. Cette liberté n'est pas à la portée des prisons et des juges et des magistrats.
Cette gauche révolutionnaire qui a fait de vous un homme libre, comme vous dites, elle est moribonde aujourd'hui, non?
Non, c'est terminé. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, en solitaire, qui comme citoyen prend des engagements qui se présentent avec une évidence insupportable pour moi.
Alors vous êtes un solitaire aujourd'hui, vous vivez même comme un ermite, hein, je le sais, dans votre campagne romaine, Eri De Luca. Vous êtes un solitaire qui écrit « La montagne est mon hospice ». Un jour, ce sera elle qui me fermera les yeux et qui les donnera aux corbeaux leur morceau préféré. Qu'est-ce qui se passe entre vous et la montagne?
C'est un lieu où ma présence est insignifiante, l'immensité est tout autour. Donc c'est un bon rapport entre ma taille et celle de la planète que j'habite.
Et ce sentiment d'insignifiance, il est nécessaire?
C'est salutaire, fait du bien à la santé, aide à se reconnaître. Mais en plus, je suis intime avec le vide, mais sans être rechangé. Non, le vide n'a aucune intimité avec moi. Donc, si je me confie au vide, il m'engloutit vif. Donc, j'ai besoin toujours de m'accrocher. Mais j'ai une intimité quand même avec le vide.
Ça, c'est de la chute à propos de vide. Pardon.
En sol majeur, @rfi.fr.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio ou bien derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec Eusanne Palsy. À la semaine prochaine.